Comment on va le traiter là, le sujet, Macron et les syndicats?
Le souci, c'est qu'on est en pleine actu, donc ça bouge.
C'est ça, ça bouge.
Bon,
qu'est-ce qu'on peut raconter de plus?
Non, moi je pense que ce qu'il faut raconter, c'est ce qu'il y a eu avant.
Comment on en arrive au blocage?
Au blocage?
Ouais.
Qui est-ce qu'on a? On a Yaël.
Ouais. Kramer, Laurent Kramer.
Pavageot.
Pavageot de Force Ouvrière. Laurent Berger,
CFDT.
CFDT. Ce qu'ils disent tous, c'est compliqué de négocier depuis le début.
Ouais.
Voire au début, il y avait quasiment rien.
Ouais. C'est ça.
Donc c'est ça qu'il faut qu'on raconte.
Ils sont face à un mur.
Pourquoi on en arrive à ce blocage?
Ouais.
Ah ben on va raconter ça alors.
C'est parti.
Et bien voilà, nous y sommes. Un an après les Gilets jaunes, la France est à nouveau en pleine fièvre sociale. Grève et manifestations contre la réforme des retraites, contre le capitaine Macron. Mais il y a une différence majeure par rapport à l'an dernier. Cette fois, les syndicats sont en première ligne face au président. Et entre les deux, le dialogue est très difficile, si ce n'est bloqué. Comment en est-on arrivé là ? Emmanuel Macron et les syndicats, avec Thibault, nous allons vous raconter cette histoire en trois mots-clés, pas franchement positifs, dédain, mésentente et flou. Vous écoutez Poursuite, je suis Bruno Duc. Au départ, un candidat à la présidentielle qui se sent poussé des ailes.
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Cette envolée d'Emmanuel Macron, c'est le 10 décembre 2016, porte de Versailles à Paris, alors qu'il vient de lancer sa candidature. Le lendemain, invité du journal de 20h de TF1, il a cette phrase très sèche à propos des syndicats.
Ce qui est très important, c'est d'avoir un dialogue social plus vivant, un vrai dialogue social. Parce qu'en France, aujourd'hui, on parle beaucoup de dialogue social, mais on a des syndicats qui, au fond, font trop de politique.
Les syndicats comme un reliquat de l'ancien monde conservateur. À France Inter, le chef du service politique, c'est Yaël Goz. Il va nous aider à raconter cette histoire.
Moi, j'ai pas de code couleur. Moi, je suis pas bien classé, pas bien rangé. J'empile les cahiers à spirale conquérants, là.
D'accord.
Alors, c'est parti. Macron et les syndicats, chapitre 1, le dédain. Yaël regarde assez loin dans le rétroviseur.
On peut même remonter bien avant la campagne présidentielle, quand il n'est pas encore entré en politique, quand il n'est même pas encore adjoint à l'Élysée auprès de François Hollande, quand il est membre de la commission Jacques Attali sur les freins à la réforme, comment débloquer un peu la société et remettre du dynamisme dans l'économie française. Là, on est en 2008, il est dans cette commission, et déjà à l'époque, le syndicat est vu comme plutôt un frein à la réforme et pas comme un levier pour accélérer sur le plan économique. Donc il y a déjà ça dans son bagage politique. Et puis dans la campagne, clairement, ça devient la différenciation voulue avec François Hollande, dont les macronistes disaient qu'il co-gérait un petit peu les réformes avec la CFDT. La rupture que veut marquer Emmanuel Macron, c'est que les syndicats ne font pas la loi. Les réformes, il les mettra en œuvre, que ça plaise ou non. D'autant que dans son état d'esprit, les syndicats ne sont plus les corps intermédiaires suffisamment représentatifs de la société française. C'est pour bien comprendre dans le logiciel macroniste ce qu'est un syndicat aujourd'hui.
Mais vous allez le voir, dans ce feuilleton, il y a souvent une différence entre l'affichage et les coulisses. Et dès le début. Pascal Pavageot est l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière. Il vient de sortir un livre qui s'appelle « Allô Jupiter, ici la Terre ». Vous voyez de qui il parle. C'est Laurent Kramer, du service éco de France Inter, qui l'a rencontré. D'ailleurs, Laurent nous rejoindra un peu plus tard. Mais pour l'instant, parole à Pascal Pavageot sur Macron avant Macron.
Ce qui est très paradoxal au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est que jamais, je pense, on a eu un candidat à la présidentielle qui a autant concerté. Quand il est ministre de l'économie, mais il consulte tous azimuts. Moi, j'étais en responsabilité sur le champ de l'économie à Force Ouvrière. Mais je passais mes jours et mes nuits, pour pas dire mes week-ends, à Bercy, parce qu'on était consultés comme jamais. Avant l'élection, les interlocuteurs sociaux lui sont utiles pour comprendre. Il sait qu'il a un déficit très fort de réalité du terrain, et donc tout ce qui peut lui amener de l'expérience, du ressenti, de la base du terrain, il le prend, donc il consulte tous azimuts. Et ça s'arrête brusquement, le jour de son élection, en considérant finalement que effectivement, ça y est, il est élu et il va dérouler intégralement les idées qui sont les siennes et son programme. On a connu des présidents de la République ou des majorités qui nous prenaient un peu pour des imbéciles, qui parfois même nous prenaient pour des cautions. Là, on nous prend pour rien du tout. On n'existe pas et ils s'en fichent. Emmanuel Macron est entouré de très peu de gens et consulte très peu. Donc, résultat des courses, il est seul. Je pense donc tu suis.
Alors, on dira parole de syndicalistes contestataires. Mais même pour les syndicats réformistes, le quinquennat a mal commencé. Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, nous a reçus avec Thibault dans son bureau de Belleville et il se souvient des tout premiers jours de la présidence Macron.
Dès le lendemain de l'élection, je me mets à lui rédiger une lettre ouverte qui paraît dans Le Monde la semaine qui suit son élection, qui s'intitule « Partager le pouvoir ». Tout de suite, on sait, je sais, qu'on aura beaucoup de mal à se faire entendre parce qu'on risque de tomber assez vite dans une forme de verticalité.
Qu'est-ce qui vous donne cette impression qu'on va vite tomber dans une verticalité ?
Ben, d'abord parce que ça se sentait pendant la campagne que la volonté, elle était de réduire les organisations syndicales à une place dans l'entreprise, mais surtout pas de se mêler des questions sociales plus larges. Et donc on sentait ça. Puis le deuxième élément, c'est que on savait que le pays était déjà en situation très compliquée et qu'il fallait surtout pas quelqu'un qui dise tout seul ce qu'il pense, mais plutôt qui commence à discuter. Mais c'était pas dans l'ADN de ce président.
Et il y va au pas de charge. Les ordonnances travail d'abord. Emmanuel Macron les fait passer quasiment sans coup férir dès le mois de septembre 2017. Ensuite, la réforme de la SNCF, les syndicats mobilisent, mais ils perdent. Cette réforme-là aussi est adoptée. Et puis en effet, comme le dit Laurent Berger, le pays est dans une situation compliquée. Le quinquennat vire au jaune, comme les gilets, et il y a eu des alertes. Pascal Pavageau arrive à la tête de Force ouvrière en avril 2018 et quelques semaines plus tard.
Fin mai 2018, je suis interrogé par vos collègues de France Inter en me disant « Comment vous interprétez aujourd'hui le climat social ?» Je réponds en disant « C'est insurrectionnel à ce stade. La prochaine fois, ce ne sera pas qu'une chemise arrachée. Ce sera insurrectionnel et pas forcément dans l'entreprise. » Alors, je ne sais pas que ça va être les gilets jaunes quelques mois après, mais cette alerte-là génère visiblement de la part de l'Élysée et des services de renseignement une enquête de terrain. Ce qui fait que, fin juin, moi je suis reçu à l'Élysée, en off, comme on dit, où l'Élysée m'indique, en gros, oui, ça couve. Visiblement, les renseignements généraux, en tous les cas, l'enquête de l'appareil d'État durant le mois de juin, corrobore ce ressenti qui était le mien pour dire ça va être insurrectionnel. Et donc, une des réponses que pense pouvoir donner le pouvoir, c'est de dire on va réunir les interlocuteurs sociaux histoire de calmer le terrain. Et le 17 juillet, il y a ce sommet social. À quoi sert ce sommet social ? À rien.
On est alors 4 mois avant les premières manifestations. Mais même en novembre, quand le mouvement commence...
Le coût de la vie est arrivé abominable, on ne peut plus vivre, donc oui, on est obligé. C'est un ras-le-bol complet.
J'en ai marre de payer, de payer, de payer.
Les syndicats ne parviennent toujours pas à se faire entendre. Laurent Berger se souvient du tout début des Gilets jaunes.
Mais d'abord, c'est le 17 novembre que je fais cette proposition, qui est clairement de dire construisons un pacte social et écologique, reposons les choses sur la table et essayons de discuter.
Réponse du Premier ministre le lendemain.
Je ne crois pas que ce que demandent les Gilets jaunes, c'est une grande conférence avec des responsables politiques et des responsables syndicaux.
Comment je réagis ? Ben, je me dis que c'est une erreur forte, et notamment l'argumentation en disant « mais c'est pas ce qu'attendent les Gilets jaunes », c'est comme ça que c'est exprimé, mais rapidement je l'ai fait savoir que ce qu'attendaient les Gilets jaunes, c'était le départ du président de la République. C'est évidemment pas à l'ordre du jour dans une démocratie comme la nôtre, et donc ça veut dire qu'il y a un impensé énorme à ce moment-là de ce à quoi peut servir une organisation syndicale, une organisation associative, c'est-à-dire de réunir des gens, de les faire partager des orientations, des objectifs communs, de hiérarchiser des revendications, de se mobiliser, certes, pour les obtenir, mais aussi d'être capable de s'engager quand il y a des résultats. Là, les Gilets jaunes ont obtenu un certain nombre de choses, il faut le dire, mais il n'y a eu aucun gain en termes de qualité du dialogue social, d'écoute, etc., puisque personne s'en est réclamé. Donc, ce jour-là, moi, je comprends qu'on rentre dans une période très compliquée où le gouvernement va essayer de s'en sortir seul face au peuple, entre guillemets, et je sais déjà d'avance que c'est pas gagnant.
Effectivement, le président seul face à la rue, c'est perdant. Ici, le 2 décembre 2018, lorsqu'Emmanuel Macron passe à l'Arc de Triomphe, dégradé la veille. L'offense faite à la CFDT à l'automne des Gilets jaunes. est d'autant plus étonnante, nouveau paradoxe, que depuis le début, entre le syndicat réformiste et le chef de l'État, il y a des points de contact. Yael Goz a tous les noms dans son carnet à spirale.
Il est lui-même entouré de gens de la CFDT. Philippe Grandjean, qui est conseiller à mi-temps auprès d'Emmanuel Macron, qui était là au tout début de la création d'En Marche. L'économiste Jean Pisani-Ferry n'est jamais loin non plus. Il y a un fil continu à l'Élysée en la personne de Pierre-André Imbert, qui est le conseiller social du président, qui garde le fil et qui voit tout le monde. Il n'a pas beaucoup de cheveux, on le voit tout petit à chaque fois discrètement sur les photos, dès qu'il y a une réunion, un Grenelle. Tous ces gens-là, de la deuxième gauche, version Rocard, dirons-nous. Laurent Berger, d'ailleurs, a appelé à voter Macron aussi au deuxième tour de la présidentielle. Tout cet univers-là, deuxième gauche, réformiste, c'est aussi dans l'ADN d'Emmanuel Macron. J'ai même envie de dire qu'Édouard Philippe lui-même, à l'origine, dans sa jeunesse, était rocardien. Et aujourd'hui, dans la vision qu'ils ont du paysage syndical, il n'y en a qu'un avec qui on peut encore parler, c'est la CFDT. Donc à chaque fois que Laurent Berger souffle le chaud, le froid, ça terrorise un petit peu aussi l'exécutif, parce que c'est presque le dernier rempart avant le rien. C'est là qu'il peut y avoir un malentendu dans l'approche qu'on a d'Emmanuel Macron et des syndicats, c'est de considérer que pour lui, ce seraient des ennemis. Non, il en voudrait d'autres. Il leur a dit, comme aux partis politiques, dans la campagne présidentielle, « Vous aussi, vous pouvez mourir ». Comme les vieux partis. Donc réformez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est à défaut de corps intermédiaires suffisamment puissants qu'il peut se retrouver dans cette situation de solitude.
Alors pourquoi ne pas s'être davantage appuyé sur les syndicats lors de la crise des Gilets jaunes? Parce que pour faire un bon match, il faut être deux. Et la réalité, c'est que lors de la crise des Gilets jaunes, les syndicats eux-mêmes étaient dans les choux. Un spécialiste parle très bien de ce moment où les centrales perdent le contact avec le peuple. C'est le sociologue Jean-François Amadieu. Thibault lui a proposé de passer dans le bureau de poursuite.
C'est tout à fait clair que le fait que les organisations syndicales, la CGT en tête, se soient tenues à l'écart est une catastrophe. Car c'est toute la question de l'ancrage populaire auprès des ouvriers et employés. C'est cette question-là qui est posée. Et à partir du moment où les organisations syndicales ne sont pas solidaires d'un mouvement qui remporte l'adhésion de 80% des ouvriers ou des employés, ça pose un problème. Et puis, alors, il y a un autre point qui joue beaucoup dans l'affaiblissement syndical. On s'aperçoit que les organisations syndicales vont beaucoup mettre l'accent sur des thèmes sociétaux. Les thèmes sociétaux sont certainement importants, donc il peut s'agir des discriminations, des violences faites aux femmes, de questions d'environnement, etc. Plus vous le faites, moins vous êtes sur les terrains les plus visibles, qui sont au fond la fiche de paix et l'emploi. Et c'est pour ça que, quand on regarde ce qui s'est passé au mois de novembre dernier, au début des Gilets jaunes, une fois de plus, je le rappelle, un soutien mais considérable dans les milieux populaires, quand on voit le Martinez, le secrétaire général de la CGT, venir dire qu'il n'est pas question d'aller avec des gens qui sont des xénophobes, des homophobes, bah oui, mais c'est son choix. C'est compliqué, parce que vous voyez qu'il y a un tel ancrage populaire, je pense pas que ça renforce le mouvement syndical.
Eh oui. Au moment des Gilets jaunes et après, les centrales syndicales payent des années de déclin. À peine plus de 10% de salariés syndiqués en France, des divisions légendaires, une capacité à mobiliser de plus en plus faible au fil des années, en tout cas jusque-là.
C'est vrai que ça a pas mal chauffé, France 24. Au début de la manifestation, Philippe Martinez qui espérait que cette journée pourrait être un moment de convergence
1er mai 2019.
Entre les Gilets jaunes et ceux qui suivent sa bannière de la CGT. Mais finalement, la tension était telle qu'il a préféré quitter le cortège.
Emmanuel Macron et les syndicats, chapitre 2, la mésentente.
Mais je veux redonner corps à une république contractuelle à laquelle je crois. Celle qui permettra de jeter les bases d'un nouveau contrat social, celui du siècle qui s'ouvre, par une discussion avec l'ensemble des partenaires sociaux, mais aussi des élus.
Emmanuel Macron devant le Congrès à Versailles le 9 juillet 2018. Car oui, à de nombreuses reprises depuis son élection, le président a semblé tendre la main aux partenaires sociaux. Mais tout aussi souvent, il a retiré la main. Un épisode clé permet de comprendre cela. Février 2019, échec des négociations entre patronat et syndicats sur l'assurance chômage. En recevant des élus locaux à l'Élysée, le président a l'une de ces petites phrases dont il a le secret.
On est dans un drôle de système tout de même, où chaque jour dans le pays, on dit « corps intermédiaires, démocratie territoriale, démocratie sociale, laissez-nous faire ». Et quand on donne la main, on dit « bon, monsieur, c'est dur, reprenez-la ».
Mais sur ce coup-là, Emmanuel Macron avait-il vraiment donné la main aux partenaires sociaux ? Ces négociations sur l'assurance chômage, il en avait fixé le cadre. Il fallait faire des économies importantes, les syndicats n'en voulaient pas, et il fallait mieux encadrer les contrats courts et précaires, le patronat refusait. Quand le terrain ne convient pas aux joueurs, difficile de faire un bon match. Pascal Pavageau, de Force Ouvrière, raconte cet épisode.
Il y a une forme de tactique, notamment sur l'assurance chômage, qui est de dire « je vais faire la démonstration de leur inutilité. Je vous demande de négocier sur ce que vous ne voulez pas négocier. » Donc il y a deux possibilités. Soit les OS disent « on ne veut pas négocier, bon ben vous êtes inutile ». Soit les OS disent « allez, on se fait misère et on tente de négocier quand même sur ce qu'on ne voulait pas négocier ». Et comme par hasard, on n'arrive pas à trouver un accord puisqu'on ne voulait pas négocier sur le sujet. Et au bout du bout, c'est « ben vous voyez, je leur ai demandé de reprendre la main, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont pas capables de conclure, ça montre bien qu'ils servent à rien, ben moi je déroule ». Moi je pense que l'année 2018 sonne le glas de la négociation interprofessionnelle. C'est-à-dire ce qu'aura obtenu Emmanuel Macron, c'est d'anéantir la négociation interprofessionnelle entre les organisations syndicales et les organisations patronales.
Mais depuis, tout a changé. Enfin, en principe. Le Premier ministre l'a promis aux députés dans son discours de politique générale le 12 juin dernier. Le discours censé tourner la page des Gilets jaunes.
De cette période qui m'aura profondément marqué, puis du grand débat, le gouvernement et la majorité entendent tirer la force d'un nouvel élan. C'est l'acte 2 du quinquennat.
Engagement à dialoguer, à écouter, mais concrètement, sur la réforme des retraites aussi, la majorité alterne. Tantôt, elle assure que la négociation est toujours ouverte. Édouard Philippe, le 21 novembre dernier, sur France Inter.
Il y a des centaines de réunions qui ont été organisées avec les représentants syndicaux depuis janvier 2018, et ça va continuer.
Tantôt, elle a des mots de défiance à l'égard des syndicats pleurnichards, comme les a appelés le président de l'Assemblée Richard Ferrand. Alors, comment interpréter ces allers-retours, ces chauds et froids permanents ? À la rédaction de France Inter, c'est Laurent Kramer qui suit jour après jour les partenaires sociaux.
Thibault me dit que le cas, okay. Plutôt en mode chrono. Toi,
tu et avec lui, nous ouvrons le troisième chapitre de cette histoire, le flou. C'est une constante dans la façon de mener les réformes depuis le début du quinquennat.
Personne ne sait ce que veut faire Emmanuel Macron. Nous-mêmes, journalistes, et les syndicats, même le chef de file syndicaux, même certains ministres, ne savent pas où veut aller Emmanuel Macron. Il y a un point d'arrivée de la réforme, mais on ne sait pas comment on y va. À de nombreuses reprises dans le quinquennat, on l'a vu, Emmanuel Macron fait volte-face, y compris lorsque les syndicats vont dans son sens. Il fait en sorte de les prendre à rebours. Moi, je pense que depuis le début, c'est une méthode. On lance plusieurs concertations, on accélère, on décélère, on donne des gages. Il change de direction, il s'adapte en permanence aux réalités sociales de l'opinion publique et du rapport de force qu'il a avec les syndicats. Les syndicats ont une idée de là où veut aller Emmanuel Macron, ça leur fait très peur, mais au quotidien, expliquer à l'opinion publique et même à leur base les dangers et ce qu'ils essaient de combattre dans ces réformes, c'est très compliqué pour eux.
Ils ont une idée d'où ils veulent aller, où veut-il aller ?
Alors, les syndicats estiment que Emmanuel Macron va dans une individualisation des droits. Et c'est vrai qu'on le voit à la fois sur l'assurance chômage, sur la formation professionnelle. C'est toujours l'individu face à des droits. Et de ce point de vue-là, les syndicats sont totalement court-circuités. Dans l'assurance chômage, ils sont court-circuités. Dans la formation professionnelle, ils existaient dans les institutions qui donnaient les formations. Ils n'existent plus. Et c'est là où les syndicats sont dans un double jeu. Ils essaient à la fois de combattre les réformes, mais en réalité de continuer à exister eux-mêmes comme institution, là où Emmanuel Macron voudrait qu'ils disparaissent.
Et sur les retraites encore, les grèves et manifestations ont commencé alors qu'on ne connaissait pas les détails du texte. Ce flou, ajouté à la faiblesse des syndicats, alimente inquiétude et colère. Jean-François Amadieu, le sociologue spécialiste des relations sociales.
Quand les partenaires sont affaiblis, divisés, et qu'on ne cherche pas à négocier avec eux parce qu'on trouve que c'est trop long, ça prend du temps, on n'a pas envie, le résultat, c'est qu'on renoue avec ce qui est la tradition française, par comparaison internationale, on la connaît. La France, c'est pas de dialogue, on brûle des palettes, on manifeste, et c'est par le rapport de force et les grèves qu'on arrive à quelque chose. Voilà.
Et du coup, Macron, le réformiste, va avoir du mal.
Mais bien sûr, Macron est rattrapé par peut-être la vieille politique ou la vieille France.
Le Gaulois réfractaire.
Et le Gaulois réfractaire, oui. Mais le Gaulois réfractaire, faudrait rappeler que c'est pas qu'un Gaulois, c'est le révolutionnaire de 1789 qui prend la Bastille. Il y a toute une tradition de lutte, même violente. Et ça, c'est, si vous voulez, dans la grande tradition française. Et au fond, on sait que pour éviter ça, il faut une politique de dialogue, une place, renforcer les partenaires, les organisations syndicales qui sont très très affaiblies. Malheureusement, c'est pas le choix qui a été fait et on va voir les effets que ça produit dans les temps qui viennent.
Et ce flou angoisse d'autant plus que la réforme des retraites, un nouveau régime à points, est un dossier extrêmement technique. C'est difficile pour le citoyen lambda de comprendre ce qu'il attend, même si au fil des jours, le gouvernement clarifie les choses. Pour Laurent Kramer, Emmanuel Macron va devoir mouiller la chemise.
Il a vendu cette réforme de retraite comme un mieux-disant social, ce qui, de mon point de vue, est une erreur tactique parce qu'aujourd'hui, ils sont bien en difficulté de faire la démonstration qu'il y aura plus de gagnants que de perdants. Donc pour les syndicats aujourd'hui et pour l'opinion publique en général, même si on peut comprendre les justifications de cette réforme, on a du mal à voir ce qui sera positif. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'atténuer la colère plus que de convaincre et de trouver, et là il faudra beaucoup de temps pour le gouvernement, cette réforme elle a quelque chose de monstrueux dans ce qu'elle implique comme transformation. Et le gouvernement a certainement sous-estimé le temps nécessaire pour trouver des solutions intelligentes, parce qu'on ne peut pas décréter qu'on va annuler tel ou tel avantage, telle ou telle condition, et mettre tout le monde sous un même toit.
Alors le président qui a fait de la capacité à réformer sa marque de fabrique, va-t-il tenir ce cap et à quel prix ? Yael Goz a une expression pour résumer les enjeux.
Réformateur ou réformator ? C'est ça le test.
Autrement dit, un président qui change les choses dans le dialogue ou qui avance au sabre. Et alors, réponse ?
Il faut me laisser quelques semaines, peut-être quelques mois, de débats politiques et de mouvements sociaux éventuels durables pour voir si ce sera réformateur ou réformator.
Et il y a une option possible, pas de réforme du tout ?
Il faudrait vraiment un grand rapport de force sociale et syndicale et très long pour que la réforme n'aille pas au bout. Aujourd'hui, les voyants sont au vert au Parlement. Hein. Rien ne peut empêcher la réforme d'être adoptée, si ce n'est un énorme mouvement social appuyé par une opinion majoritaire. Est-ce qu'il est prêt à affronter des blocages nombreux, des transports paralysés ? Et la clé, c'est de savoir après si l'opinion se retourne. Est-ce qu'elle considère que c'est à cause des méchants syndicats que le pays est bloqué ou à cause d'un Macron obstiné que le pays est bloqué ? Voilà, ça peut se renverser des deux côtés. À qui on impute la faute d'un pays bloqué ? Ça sera la clé pour savoir s'il est réformateur ou réformateur.
Une semaine après les premières manifestations, Édouard Philippe a donné les détails de la réforme des retraites. Cela n'a pas suffi à renouer le lien avec les syndicats. On ne répare pas en un discours une relation abîmée depuis 2 ans et demi. C'était Poursuite, Emmanuel Macron et les syndicats, la grande mésentente.
Ça sera la clé pour savoir s'il est réformateur ou réformateur.
Parfait, faut que tu files.
Ça va à peu près ou...
Ouais, il me semble, ouais.
Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter.